RFI, bonjour, bienvenue. Il est tout juste midi, temps universel, 13h, ici à Paris.
RFI midi, Charlotte Hydrac.
Avec à la une le retour à la maison pour 4 otages israéliennes libérées ce matin par le Hamas dans le cadre de l'accord de trêve à Gaza. Israël, de son côté, doit libérer 200 détenus palestiniens. Le chamboule tout au sein de la nouvelle administration aux États-Unis, quelques jours après l'investiture de Donald Trump. Les fonctionnaires chargés de promouvoir la diversité dans les agences fédérales sont tout simplement licenciés. Nous serons en Biélorussie également dans ce journal à la veille de l'élection présidentielle. L'autocrate Alexandre Loukachenko vise un 7e mandat. L'escalade dans l'est de la RDC, intense combat entre l'armée et ses alliés d'un côté, les rebelles du M23 soutenus par des militaires rwandais de l'autre. Toute l'actualité africaine, midi et demi, temps universel.
RFI midi.
À suivre aussi, les bateaux de croisière ne sont plus les bienvenus. À Nice, dans le sud-est de la France, la mairie veut lutter contre le surtourisme et la pollution. Est-ce la fin d'un tabou en Allemagne? Une éventuelle coopération entre conservateurs et extrême droite fait débat, on en parlera avec notre invité. Et puis le premier grand chelem pour l'américaine Madison Keys, c'est gagné pour elle à l'Open d'Australie de tennis. Le journal des sports, c'est dans 10 minutes. Oui, pour le moment, le plan se déroule comme prévu. Une semaine après la mise en œuvre de l'accord de trêve entre Israël et le Hamas, le cessez-le-feu tient dans la bande de Gaza. L'État hébreu doit libérer, là aujourd'hui en principe, 200 détenus palestiniens. En échange, des 4 otages israéliennes libérés dans la matinée. Samy Bourlifa, on vous retrouve en direct de Jérusalem. Ce sont 4 soldates qui ont désormais retrouvé leurs parents en Israël après avoir été relâchés dans la bande de Gaza.
Oui, relâché dans une mise en scène digne d'un film. La libération a eu lieu à Gazaville, place de la Palestine. Le Hamas joue toujours sur les symboles pour envoyer des messages, c'est sa méthode, et celui-ci est assez explicite. Les soldates israéliennes ont été relâchées en uniforme militaire flambant neuf, contrairement aux précédentes otages libérées en habit civil. Sous la contrainte, elles sont apparues tout sourire et ont salué la foule. Le Hamas refuse de qualifier ces soldates d'otages et parle de prisonniers de guerre. Ces 4 soldats effectuer leur service militaire, les Israéliens les appellent les Tatzpitanouyot, autrement dit des guetteuses ou des observatrices. Leur mission, la surveillance. Elles étaient déployées à la frontière de Gaza le 7 octobre 2023 lorsque les commandos du Hamas ont déferlé dans leur base. Le Hamas a remis donc ses 4 soldates, Nahama Levy, Daniela Gilboa, Liri Albag et Karina Arieff, aux équipes du CICR, le Comité International de la Croix-Rouge.
Et comme le stipule l'accord, Israël doit libérer 50 détenus palestiniens pour chaque soldat israélien relâché.
Faites le calcul, 50 détenus, 4 soldats, 200 Palestiniens sortent des prisons israéliennes aujourd'hui. Un premier échange a eu lieu la semaine dernière et au terme de cette première phase du cessez-le-feu, 33 otages israéliens seront libérés contre 1900 Palestiniens. L'autre volet de cet accord comprend le retrait des forces israéliennes du centre de la bande de Gaza. En théorie, à partir de demain, les Gazaouis pourront se déplacer librement dans l'enclave entre le sud et le nord. Mais le bureau du Premier ministre Benjamin Netanyahou annonce qu'il conditionne finalement ce retour des Gazaouis dans le nord à la libération d'Arbel Yehoud, une otage civile israélienne. Elle sera libérée samedi 1er février, dit le Hamas.
Samy Bourlifa en direct de Jérusalem. Le cessez-le-feu cette fois entre Israël et le Hezbollah au Liban. En principe, le retrait des forces israéliennes au sud du pays devait être effectif demain, dimanche 26 janvier, mais l'État hébreu a prévenu, le retrait se poursuivra au-delà de cette date limite s'il estime que le Hezbollah n'a pas totalement respecté ses engagements. L'armée libanaise, elle, accuse Israël de tergiverser. Aux États-Unis, certains n'hésitent pas à parler de purge au sein de l'administration. Depuis le retour au pouvoir de Donald Trump, c'est allé très vite. Les agences fédérales américaines ont appris hier qu'elles avaient 2 mois devant elles pour fermer leur programme de défense de la diversité et pour limoger donc tous les fonctionnaires qui y travaillent. Daniel Valo.
Bonjour.
Bonjour.
Absolument. Donald Trump n'aura donc pas perdu de temps sur ce sujet de la diversité, qui est l'un des thèmes favoris de la droite américaine. Il s'était emparé de ce thème avec férocité durant la campagne électorale. Il avait notamment qualifié Kamala Harris, son adversaire, de candidate de la diversité, sous-entendant qu'elle avait été choisie non pas pour ses qualités, mais parce que c'était une femme noire d'origine indienne. Alors, concrètement, que va-t-il se passer? Eh bien, les agents fédéraux ont 60 jours pour limoger les fonctionnaires qui travaillent à la promotion de la diversité au sein des entreprises et de l'administration. C'est la première étape officielle de cette grande purge qui s'annonce au sein de l'administration, avec une autre décision hier révélée par le Washington Post, le limogeage sans précédent de 12 inspecteurs généraux de l'administration. C'est un véritable massacre, a confié l'un de ses hauts fonctionnaires au Washington Post. Le poste de contrôleur général avait été créé à la fin des années 70 à la suite du scandale du Watergate pour permettre des enquêtes indépendantes et des audits sur les opérations de l'administration fédérale, justement.
Daniel Valo est par ailleurs le nouveau patron du Pentagone, a été confirmé au Sénat américain, mais de justesse. Pete Hegseth, ancien présentateur de Fox News, critiqué pour son manque d'expérience ou encore des accusations d'agression sexuelle. Des appels au calme qui sonnent dans le vide pour l'instant en République démocratique du Congo, où des combats opposent toujours l'armée et ses alliés aux rebelles du M23, soutenus par des militaires rwandais au nord-est du pays, autour de Goma. L'Union européenne appelle Kigali à cesser de soutenir le M23. L'Angola, de son côté, appelle à la reprise des négociations de paix. Le vote anticipé a débuté en Biélorussie, mais pour la majorité des électeurs, ce sera demain, élection présidentielle qui s'annonce comme une formalité en fait pour Alexandre Loukachenko. 70 ans, dont 30 au pouvoir, il brigue un 7e mandat. Ce proche du président Poutine reste un pilier pour un socle de Biélorusses, impitoyable aussi envers ses opposants. Le précédent scrutin en 2020 avait été marqué par une contestation sans précédent et une répression menée d'une main de fer. Envoyé spécial à Minsk, Anissa El-Jabri.
À la vue d'un micro étranger, souvent un geste de refus, sans parole, quant aux questions sur les élections.
Aucun commentaire malheureusement, j'ai bien mon opinion, mais je ne la donnerai pas tant que je suis dans ce pays. Même là, quand je vous parle, je fais attention, je ne sais pas très bien qui pourrait entendre mes paroles. C'est comme ça qu'on vit ici, on ne peut pas être nous-mêmes.
Un homme rencontré dans les rues de Minsk dit avoir vu, après 2020, la moitié de son cercle d'amis quitter le pays. Lui, c'est certain, ne se déplacera pas pour aller voter.
Il n'y a aucun choix. Les candidats face au président ne sont pas des gens qui veulent changer quoi que ce soit. Ils sont juste là pour créer une illusion de compétition, rien de plus. Je pense que le climat global déclenche beaucoup de tristesse chez les gens.
Le pouvoir, lui, fait tout pour mobiliser, notamment les jeunes. Ce vendredi après-midi, au siège de la commission électorale, était organisé un tournoi de jeu. Plusieurs jeunes attablés pour une forme de jeu de loi où chacun tente de faire gagner son candidat.
Moi, j'ai pris le personnage d'inspecteur de police. J'ai toujours voulu travailler dans les forces de l'ordre, alors j'ai décidé d'avoir ce métier, au moins dans le jeu. Et puis, ça veut dire avoir dans son programme un renforcement des mesures anticorruption, une augmentation du budget des agences de sécurité, une implication de la société civile dans la surveillance dans les régions. Je crois que ce sont des sujets importants pour tout le monde.
Depuis des mois, les services de sécurité biélorusses évoquent un complot occidental à l'œuvre contre le scrutin. Anissa El-Jabri, Minsk, RFI.
En France, c'est acté. La Fondation Abbé Pierre change officiellement de nom. C'est publié au JO ce samedi. Son fondateur visé par plus de 30 accusations de violences sexuelles. L'organisation va désormais s'appeler Fondation pour le logement des défavorisés. En France encore, les compagnies de croisière internationales se disent stupéfaites après l'interdiction des gros navires à Nice, dans le sud-est. Décision du maire de la ville, Christian Estrosi. But affiché, lutter contre le surtourisme et la pollution. Et c'est une très bonne nouvelle pour la présidente du groupe des écologistes à la mairie de Nice, Juliette Chesnel-Leroux.
Pour nous, c'est une victoire des écologistes depuis le combat qu'on mène contre ces bateaux de croisière depuis des années. Hein, parce que c'est les émissions des résidus de combustibles fuel lourds sont terribles pour la santé, pour la qualité de l'air. Ça, c'est vraiment important. Il y a toujours entre 0,5 et 1% de soufre émis, ce qui est quand même terrifiant pour la santé des habitants en termes de qualité d'air. Et puis l'ancrage de ces bateaux a un impact sur toute la mer Méditerranée, qui est une mer fermée et donc très fragile. Mais c'est vraiment sur la rade de Villefranche que l'impact est le plus important. C'est vraiment un berceau d'espèces endémiques et d'espèces animales très précieux. On a des barracudas, on a des poissons incroyables et on a des herbiers de Posidonie qui méritent quand même toute leur attention.
Voilà, Juliette Chesnel-Leroux, présidente du groupe des écologistes à la mairie de Nice, au téléphone avec Camille Salcedo-Ruiz. Tout de suite, on part au stade. Le journal des sports, c'est avec vous, Babacar Diarra. En foot, d'abord, le Paris Saint-Germain retrouve les affaires courantes après sa victoire de prestige en Ligue des Champions mercredi.
Les Parisiens sont entre deux matchs cruciaux pour leur avenir européen. Le premier a été magistralement remporté face à Manchester City. Celui de mercredi prochain à Stuttgart en Allemagne peut leur assurer la qualification en barrage. Mais entre-temps, les leaders de Ligue 1 reçoivent le Stade de Reims 13e au Parc des Princes pour la 19e journée. Les fans du PSG pourraient découvrir à cette occasion leur nouveau joyau offensif, le géorgien Gvicha Kvaratskhelia, toujours à phare en information. Son nouvel entraîneur Luis Enrique n'a donné aucune indication sur sa présence sur le terrain aujourd'hui.
Quand va-t-il commencer à jouer? Cela dépend de ses entraînements. De toute façon, lorsqu'on recrute un joueur, c'est que nous sommes persuadés qu'il peut améliorer le rendement de l'équipe, même s'il est déjà très élevé. À partir de là, quand il va débuter, c'est difficile de le savoir, mais ce n'est pas le plus important. Le plus intéressant, c'est qu'il est déjà dans la dynamique du groupe. Il commence à voir ce que nous demandons aux joueurs et j'en suis très heureux. En tout cas, physiquement, il est très bien. Aucun problème à l'entraînement. Il est parfaitement adapté. C'est un joueur du Paris Saint-Germain. Je le sens vraiment bien. Il est prêt.
La première parisienne de Gvicha Kvaratskhelia, meilleure prononciation cette fois, ce sera peut-être pour ce soir à 20h05 face à Reims.
En tennis féminin, une Américaine de 29 ans vient de faire son entrée dans le gotha des vainqueurs du Grand Chelem.
Même Arina Sabalenka, qui rêvait d'un triplé à l'Open d'Australie, n'a rien pu faire ce matin sur la route de Madison Keys à Melbourne. La native de Rock Island s'est imposée 6-3, 2-6, 7-5 contre la Biélorusse à l'issue d'une belle finale d'un peu plus de 2 heures. Madison Keys, 14e au classement WTA, aurait eu le mérite de battre tour à tour les deux meilleures joueuses du monde en demi-finale. Puis en finale, elle va se propulser dans le top 10 mondial après sa première victoire dans un tournoi majeur. Jusqu'à présent, elle n'avait disputé qu'une finale perdue lors de l'US Open 2017. Demain matin, l'Allemand Alexander Zverev tentera lui de remporter son premier grand chelem face au tenant du titre à Melbourne, l'Italien Yannick Sinner. Premier échange à 8h30 TU.
Allez, retour en France, les fans de basket et de NBA auront les yeux rivés sur l'Accor Arena tout à l'heure pour la deuxième sortie parisienne des San Antonio Spurs et de leur numéro 1, Victor Wembanyama.
Jeudi soir, le pivot français avait livré une partition victorieuse avec 30 points pour une victoire large face aux Indiana Pacers. Les deux équipes se croisent une deuxième fois à partir de 17h TU pour une revanche. Aux côtés de Wemby, un autre Français tente de grignoter des minutes de jeu. Sidi Sissoko, 20 ans. Le jeune ailier est apparu sur le parquet jeudi pour de petites minutes quand le suspense était inexistant. Très peu utilisé depuis son arrivée en NBA il y a un an et demi. Il découvre ce monde particulier de la Ligue nord-américaine, son rythme effréné et son staff gigantesque.
Il y a plus de 100 personnes qui travaillent pour nous. Il y a tellement de choses qui se passent en dehors des caméras que les gens ne voient pas, qui ne remarquent pas. Mais après, je pense que toutes les organisations NBA, c'est comme ça. Et il y a beaucoup de personnes qu'on respecte énormément derrière les caméras, quoi. Et ça fait, ils sont là pour nous, quoi. Ils sont là pour nous et les personnes qui vont avoir les matchs des fans NBA, quoi.
Les gens ne s'en rendent pas forcément compte non plus, mais en fait, vous voyagez tout le temps.
Pratiquement toutes les semaines. Mais à la fin, on s'habitue. Et puis voilà quoi.
Sidi Sissoko au micro de Victor Missistrano.
Merci à vous Babacar Diarra. Alors justement, on va retrouver Victor Missistrano pour ce match de NBA, cette revanche entre les Spurs et les Pacers tout à l'heure à Paris. Pour assister à la rencontre, les 16 000 spectateurs de l'Accor Arena ont dû casser leur tirelire, environ 350 euros en moyenne la place. C'est inaccessible, beaucoup trop cher pour la plupart des passionnés de basket américain, mais des fans qui sont en revanche de plus en plus concernés à la NBA.
Chaque jeudi soir après l'entraînement, les joueurs de ce petit club de basket de l'Est parisien jouent les prolongations autour d'un verre. Cette semaine, le planning n'a pas changé, pas de match NBA. Tous auraient espéré une offre plus accessible.
Des prix abordables, notamment moins de 100 euros, tu vois.
Là, le prix des places me refroidit trop.
J'ai même pas regardé, mais je sais que les 2-3 dernières années, c'était au-dessus de 600 euros, truc comme ça. Ils auraient pu au moins faire peut-être quelque chose avec les licenciés de la fédération. son basket.
Ces deux matchs NBA offrent aux spectateurs européens des horaires plus classiques, car c'est aussi le décalage qui rend les matchs plus difficiles à suivre, comme l'explique Fabien, grand passionné de basket américain.
Quand t'es au chômage, ouais, c'est facile, ouais. Parce que là, du coup, tu peux mater les matchs le lendemain matin. Mais évidemment, quand tu travailles, tu fais un 9h-18h30, c'est compliqué de mater les matchs. Mais si t'es un vrai passionné, tu peux mater un match par semaine en général. Moi, c'est mon rythme. J'ai oublié, il y a le dimanche soir. Généralement, c'est un match qui commence à 20h30-21h. Donc là, c'est abordable pour nous, on peut le regarder. Après, t'as aussi en vrai Instagram où tu peux voir tous les résumés. Les meilleures actions d'un match, ça peut être un dunk, un contre.
Le patron de la NBA, Adam Silver, l'a bien compris, se délocaliser ne suffit pas pour conquérir un nouveau public.
Je pense qu'il se développera via diverses formes de médias. Nous parlons de délocaliser plus de matchs en Europe, mais ce n'est pas extensible. Et ce n'est rien par rapport à notre public mondial. 2 milliards de personnes consomment la NBA d'une manière ou d'une autre au cours d'une année.
Selon Adam Silver, les réseaux sociaux permettent de cultiver l'intérêt pour les matchs, contrairement à la plupart des ligues de football qui verrouillent leur contenu. La NBA adopte une stratégie inverse.
Les technologies de diffusion en continu nous permettent de personnaliser les flux, consommateur par consommateur, fan par fan. Si je veux regarder les matchs des Spurs et Wembanyama et entendre tout ce qu'il fait pendant ce match, c'est possible.
George Eddy aurait eu du mal à imaginer cela il y a 40 ans, quand il est devenu la voix du basket en France, puis en Afrique, sur la chaîne Canal+.
Quand on compare avec les premiers matchs que j'ai faits dans les années 80, c'était des matchs qui étaient joués 2 semaines auparavant, donc diffusés en différé. Il y avait un match par semaine. Maintenant, on peut voir tous les matchs, tous les jours. C'est une prolifération grâce à Internet et à la communication moderne. La NBA en profite pleinement et la France aussi.
Illustration avec ce contrat faramineux récemment signé par la NBA pour ses droits TV. La Ligue empochera 76 milliards de dollars au total sur les 11 prochaines années.
Pacers versus Spurs ce soir à Paris à 18h. Pour le moment, 13h16 à Berlin. Est-ce qu'un tabou est en train de sauter en Allemagne? Vif débat dans le pays sur une éventuelle coopération entre conservateurs et extrême droite pour un durcissement des règles migratoires. Et cela en pleine campagne pour les législatives du 23 février. Les conservateurs de la CDU et leur chef Friedrich Merz sont favoris. Bonjour Jeannette Süß.
Bonjour.
Chercheuse au comité d'études de relations franco-allemandes auprès de l'IFRI, merci d'être avec nous. Cette éventuelle ouverture des conservateurs à l'AFD a provoqué des réactions en chaîne en Allemagne. Est-ce qu'effectivement, selon vous, le cordon sanitaire qui exclut l'extrême droite de toute alliance politique est en train de tomber?
Oui, en fait, c'est toute une discussion qui n'est pas tout à fait nouvelle, en fait, parce que cette question, elle se pose régulièrement aussi à l'échelle locale, où on peut déjà constater que la CDU-CSU, ils collaborent de fait dans le cadre des motions qui sont déposées par l'AFD sur des projets très très concrets, vraiment à l'échelle locale. Or, en 2018, le parti, il a conclu une sorte d'interdiction de collaboration, c'est-à-dire une interdiction pour créer des coalitions avec l'AFD et elle y tient. Donc ça, c'est une ligne qui est tout à fait claire, mais ce qui est un peu moins clair, c'est comment cela se répercute pour la collaboration parlementaire quand il y a des motions, ce qui va être le cas maintenant avec cette motion de la CDU pour durcir la politique d'asile et d'immigration.
Et cela après la nouvelle attaque en Allemagne, attaque au couteau de cette semaine.
En effet, donc c'est ça un peu le déclencheur qui a conduit les chrétiens démocrates à faire de nouvelles propositions sur l'asile et l'immigration, sachant qu'il y a déjà eu une discussion l'automne dernier dans le contexte aussi des élections régionales, notamment en Allemagne de l'Est, où l'AFD a fait ses plus hauts scores, tout à fait fulgurants. Donc le débat est pas tout à fait nouveau parce qu'il y a déjà eu une autre attaque à couteau à Solingen, mais là dans le cadre de ce demandeur d'asile qui était censé, qui était débouté, qui était censé quitter le territoire. Il y a toute l'interrogation à quel point l'AMM n'arrive pas à assurer ses frontières, il n'arrive pas à exécuter, à faire expulser en fait ces demandeurs d'asile qui n'ont pas le droit d'asile.
En pleine campagne pour ces législatives du 23 février, Elon Musk a pris fait et cause pour l'AFD, le milliardaire américain est proche du président Trump. Dans quelle mesure, selon vous, le retour de Trump à la Maison-Blanche accompagné d'Elon Musk peut pousser l'extrême droite en Allemagne? C'est une forme de publicité en quelque sorte.
C'est clairement une forme de publicité parce qu'il faut rappeler que Elon Musk lui-même, il a 214 millions de followers et ce live stream entre Musk et Vidal, il a été regardé par à peu près 5 millions d'utilisateurs de X. Ce qu'on peut voir dans les sondages, en fait, on ne voit pas encore de pic ou on ne voit pas en sursaut dans les sondages de la part de l'AFD. Mm-hmm. Il est très stable. Donc,
il est en deuxième position, je crois, derrière la CDU.
Exactement, donc c'est là où c'est tout à fait retentissant, sachant qu'il n'avait fait que 10% en 2021, donc ça serait un doublement de son score. Mais ce qu'on peut voir, c'est clairement une montée en puissance dans les réseaux sociaux en soi, la portée médiatique en général, avec cette tribune aussi d'Elon Musk dans le journal allemand de Die Welt. Mm-hmm. Donc en fait, il y a toute une discussion.
Il disait que l'AFD allait sauver l'Allemagne.
Exactement, sur l'ingérence de ce genre d'acteurs dans la campagne actuelle qui est en soi tout à fait nationale, bien sûr.
Et qui donne un certain élan à ce parti d'extrême droite. Des personnalités de l'AFD sont accusées de révisionnisme sur le Troisième Reich, alors que des cérémonies du 80e anniversaire de la libération du camp nazi d'Auschwitz en Pologne auront lieu lundi, le symbole des horreurs nazies. Est-ce que cela interpelle en Allemagne? Est-ce que ça crée un certain malaise?
Tout à fait, mais là aussi, c'est pas un débat nouveau. En fait, à Freital, c'est cette ville où est Auschwitz en Saxe, l'année dernière, il y a eu exactement le même débat et on avait même annulé l'événement de la commémoration donc en 2024. Cette année, on l'a pas fait. Le maire a décidé de confirmer que ça serait en représentant au niveau du Land, donc régional de l'AFD, qui tiendra le discours de commémoration parce qu'en fait, c'est à tour de rôle que chaque parti peut le faire. Mais il y a évidemment, ça a suscité un vif débat parce qu'il y a des organisations juives et des survivants de l'Holocauste ainsi que les autres partis démocratiques qui ont exprimé leur ferme opposition à la présence de l'AFD, sachant que les services de renseignement antérieurs allemands, donc ce qu'on appelle l'Office de protection de la Constitution, ben, ils avaient déjà classé trois sections régionales, notamment celle de Saxe où se tient donc ces commémorations de l'AFD comme clairement extrémistes de droite. Donc anticonstitutionnel.
Et l'AFD qui tient un meeting cet après-midi là avec Alice Weidel, candidate à la chancellerie. Parallèlement, un appel à une manifestation contre l'extrême droite est organisé à Berlin, ce qui illustre donc les fractures, les débats en ce moment en pleine campagne en Allemagne. Merci beaucoup à vous, Jeannette Zuss. Je rappelle que vous êtes chercheuse au comité d'études des relations franco-allemandes auprès de l'IFRI. Merci.
Merci beaucoup.
Vous écoutez RFI Midi.
L'ONU parle d'une épidémie mondiale. Il ne s'agit pas d'une maladie, mais de comportement. Les Nations Unies lancent leur nouvelle campagne de sécurité routière. Cette année encore, l'entreprise d'affichage française JC Deco co-dirige l'opération. Parmi les visages qu'on retrouve sur les affiches, le tennisman Djokovic, le footballeur Ousmane Dembélé, avec des slogans, par exemple, sur le terrain, j'accélère, sur la route, je ralentis, une campagne qui est lancée au total dans 80 pays, Marina Mieltarek.
En France, c'est dans un collège que cette campagne mondiale a été lancée. Pourquoi ? Parce que, quel que soit le pays, quel que soit le continent, ce sont les jeunes qui meurent le plus sur la route. Et dans ces écoles, justement, lorsque Christophe Ramon, directeur d'études à l'Association française de prévention routière, ajoute que parmi ces jeunes, il y a beaucoup plus de morts chez les garçons que chez les filles, eh bien l'ambiance se glace un peu. Christophe Ramon.
C'est vrai que les garçons sur la route prennent plus de risques, ils sont beaucoup plus utilisateurs de deux roues. Ce qu'il faut dire, c'est que depuis 2010, il y a des stratégies de sécurité routière qui ont été mises en place à travers le monde, y compris en Afrique et en Asie, et avec des résultats, puisque depuis 2010, on a une légère baisse. C'est déjà un premier succès, alors il faut absolument réduire les vitesses là où il y a des piétons, et ensuite mettre des règles sur le port de ceinture dans les véhicules, et malheureusement, on a encore des pays qui n'ont pas la ceinture obligatoire dans certaines circonstances. C'est aussi des contrôles routiers de l'alcool, c'est très important. Il faut absolument avoir un casque moto, c'est la meilleure chance de ne pas avoir de blessures graves à la tête. Donc on a besoin de passer ce type de message.
Des sportifs mondialement connus comme Ousmane Dembélé ou Novak Djokovic se mobilisent. Ils connaissent l'enjeu du futur, faire baisser les morts en Afrique ou en Asie, là où la majorité de la population a moins de 30 ans. Mais aussi où les gouvernements doivent s'attaquer à trois priorités. La qualité des routes, la qualité des véhicules et notamment des deux roues. Et on ne le dit pas assez, également à la protection des piétons en leur aménageant des couloirs le long des routes. Albert Asseraf est responsable de la sécurité routière pour le groupe JC2CO. Il a co-dirigé cette campagne de l'ONU.
Cette campagne par des visages de stars qui sont pour certaines nationalement ou d'autres mondialement connues et dans lesquelles on va se retrouver pour un certain nombre de valeurs en se demandant que me dit Michel Yeo, que me dit le joueur de foot Dembélé. L'expérience montre des conseils de sécurité. C'est un gage d'efficacité qui est très grand. Prenons un exemple, vous êtes à moto dans un pays donné, vous ne portez pas votre casque et vous voyez ce message sous forme d'affiche par une célébrité qui vous dit il faut porter un casque, de ne pas boire d'alcool au volant, d'attacher sa ceinture, à être en communication pour la sécurité routière.
Une chose pour finir, et qui peut servir à tous les parents du monde, ce ne sont pas les images de sang et d'accidents graves qui encouragent le plus les jeunes à la prudence, mais le rire. Et ça fonctionne dans tous les pays. L'humour incite à prendre la route au sérieux.
Chronique signée Marina Mielzarek. Que ce soit en voiture, en métro, à pied ou à vélo, il y a toujours du monde pour se rendre au Palais Garnier à Paris, un monument phare de la capitale qui fête ses 150 ans. Ses ballets et opéras attirent 350 000 spectateurs par an. C'est aussi un haut lieu touristique. Et pour sa saison anniversaire, le Palais Garnier en met plein la vue. Reportage Marius Lafont.
Approchez-vous bien.
En plein cœur de Paris se dresse l'immense Palais Garnier. Les colonnes ciselées de la façade portent un lourd toit en cuivre vert. Au sommet, des statues dorées surveillent la foule qui se presse à l'entrée. Pour ces 150 ans, nous faisons une visite privilégiée avec un groupe d'une vingtaine de touristes, accompagnés par notre guide Sandrine Lamiable.
Bonjour à tous, bienvenue à l'Opéra National de Paris, au sein du Palais Garnier. Nous allons donc découvrir ce théâtre dédié au ballet et à l'opéra, construit par Charles Garnier.
La sécurité passée, direction une maquette de la salle de spectacle. L'opéra est un lieu vivant, aujourd'hui il y a une répétition. Hors de question de déranger les artistes.
Je vous invite à faire un arc de cercle. Dans cette maquette, on peut voir qu'il y a un placement des spectateurs qui se fait au rez-de-chaussée, ce que l'on appelle l'orchestre. Ensuite, vous avez quatre étages de balcons. On va parler de loges de premier balcon, deuxième balcon, etc.
Nous poursuivons vers le grand escalier, un hall faramineux qui débouche sur la façade de l'opéra. Tout est doré, il y a du marbre, des statues, des chandeliers.
On a un magnifique plafond avec une multitude de couleurs. Là, il s'agit d'une mosaïque.
Nous suivons notre guide dans une galerie qui entoure la salle de spectacle. Des hublots permettent de l'apercevoir. Ici, on danse les chorégraphies de John Cranko ou Sharon Eyal. On met en mouvement la musique de Léo Delibes ou Tchaïkovski. Clément est venu de Lyon avec un ami, il est émerveillé.
Je trouve ça grandiose. J'étais en train de regarder la soie sur les murs, parce qu'elle a été faite par un des derniers canuts à Lyon, la soirée Prel, et c'est un ami à nous.
Les costumes exposés dans cette galerie permettent de saisir le splendide des représentations.
Dans la vitrine, c'est la fameuse reine Margot, avec une robe dont le tissu rappelle le tissu de la salle de spectacle par son coloris et par les motifs floraux.
La cloche signale la fermeture du palais. À la sortie, Léna est conquise.
C'était la première fois que je venais ici et franchement, c'était plus que magnifique. On imagine vraiment les gens à l'époque s'y pavaner. Ça fait vraiment une impression de grandiosité, quoi.
Victoria vient d'Argentine. C'est la troisième fois qu'elle visite le Palais Garnier.
Je m'en lasse pas, ça fait rêver. Et je pense que c'est un de mes endroits préférés de Paris. Je rêverais de voir un opéra ici.
Et plusieurs événements sont prévus pour marquer ces 150 ans du Palais Garnier. Programme sur opéradeparis.fr. Restez avec nous, Afrique Midi, dans une minute, à tout de suite.
RFI, la sélection du mois.
Maureen. Papito fait plus fort, méchant corps à corps. Make it jump, on nous fait sport. Papito qui calo, dans la ventado. Oui, t'en veux encore, encore, encore. C'est clean, faut tout manger. Six o'clock, baby, la faut dégager.
Me gusta tu onda, la manera que piensa. Somos diferentes, pero no miente la ciencia. Lo opuesto se
arraña. DJ Sinsuela y Ana Tijoux.
buena onda, loco.
RFI Musique.
L'épopée des musiques noires.
La célèbre organiste américaine Rhoda Scott fête les 20 ans de son Lady Quartet en nous présentant un nouvel album qui réunit des complices masculins et féminins. Ladies and Gentlemen est le fruit multicolore de son éclectisme maîtrisé, des standards jazz des années 20 aux classiques afrobeats, de Nat King Cole à Fela Kuti.
L'épopée des musiques noires, Joe Farmer.
Tout à l'heure, à partir de 13h30 TU.
RFI.
L'information continue sur la chaîne WhatsApp de RFI.
Chaque jour, vous pouvez retrouver directement sur votre téléphone les principaux titres de l'actualité internationale et les analyses de RFI, ainsi qu'une sélection de nos émissions. Pour nous suivre, c'est simple. Allez sur l'onglet « Actu » de votre application, abonnez-vous à notre chaîne et rejoignez la communauté WhatsApp de RFI.
RFI sur WhatsApp, l'actualité autrement, l'information quand vous voulez.